sera régressif ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question d'enfants, certes, de musique live, de jonglage, d'extraterrestres, d'unissons et même de culottes de peau. Avec Philippe Ken qui signe Next Day, un spectacle d'enfants sans adultes autogéré dans un décor urbain pour une communauté étrange de théâtre qui fait des crêpes, Lucille Comeau.
Retour sur le parcours d'un artiste qui vient des arts plastiques, passé par la scénographie et qui met sur scène moins des tensions dramatiques que des milieux à observer.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, son invité, ce sera Pascal Bordet, costumière du théâtre. 19h35, plateau Tirol, avec Alessandro Chiaroni, invité du Festival d'automne pour 3 spectacles qui jouent sur la répétition, l'épuisement, la résistance ou comment faire basculer la danse folklorique et le jonglage dans une esthétique minimaliste. Manu Farine.
Jongle, chou plateleur, c'est promis, on vous expliquera. Et bientôt sport ou comment la mise à nu d'une pratique traditionnelle fait motif chorégraphique.
Une émission remplie à ras-bord puisqu'à 19h50, ce sera la session live du lundi. Ce soir, Moodweed.
Session pop, oui, avec le groupe Moodweed, ils chanteront en direct La Lune.
Ah bon ? Oui. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture avec Zoé Sfez, que l'on ouvre bien sûr avec le son du jour. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et c'est votre son du jour.
Mais c'est mon son du jour.
Un vrai son du jour.
C'est une vraie son du jour, c'est même une chanson. C'est la chanson du jour, elle s'appelle It's What We Do. On y reconnaît, je crois, le style assez inimitable des Pink Floyd. C'est un extrait de leur nouvel album Endless River, nouveau et dernier album, puisque les membres du groupe ont assuré qu'il n'y en aurait pas d'autres. Voilà, c'est très triste, mais c'est comme ça. Il a été pensé comme un hommage au claviériste Rick Wright, qui est mort d'un cancer en 2008. Il s'appuie notamment sur les chutes et ébauches de plusieurs sessions d'enregistrement de The Division Bell, un album de 1994 qui avait été pensé comme un double album mais dont la production s'était avérée trop complexe. Et c'est une réussite puisque cet album est devenu l'album le plus précommandé de tous les temps sur Amazon.
Et l'on passe tout de suite au dossier du jour. En cette année de commémoration de la Grande Guerre de 14-18, eh bien, le musée de l'armée a enfin intégré dans son exposition permanente sur la Grande Guerre les fusillés pour l'exemple, ces soldats dont la réhabilitation est l'objet d'un débat depuis quelques décennies.
Oui, alors ce débat il a commencé il y a longtemps, dans l'entre-deux-guerres. Le sort de ces soldats, qui a longtemps été synonyme de honte pour toute leur famille, parfois pour toute leur commune, est envisagé de plus en plus d'un œil neuf. Depuis Lionel Jospin en 98 jusqu'à Nicolas Sarkozy en 2011, les politiques ont toujours promis de travailler sur ce dossier. Et l'année dernière, enfin, François Hollande a annoncé que les fusillés, pour l'exemple, auraient leur place dans le musée de l'armée à Paris. C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années de la Ligue des droits de l'homme, de la Libre Pensée ou encore du Mouvement pour la paix, association dont Patrick Kazmarek est le représentant pour le département de la Somme.
Sur les 650 fusillés, il y a déjà eu une cinquantaine qui ont été reconnus avoir été fusillés par erreur judiciaire. C'est sûr que la commémoration du centième anniversaire, si je puis dire, du début de la guerre 14-18 marque un temps fort qui a relancé complètement la campagne. La liste des 650 est connue. Hein. L'exemple le plus flagrant, c'est ce fusillé pour l'exemple qui a été accusé de s'être auto-mutilé. Et avant de le fusiller, on s'est rendu compte que c'était un éclat de shrapnel qu'il avait dans la main. Et il a été fusillé, l'officier a dit « on ne revient pas là-dessus, ça sera pour l'exemple ».
Trouver une place donc pour les fusillés pour l'exemple au musée de l'armée est un acte symboliquement fort. Mais cela n'a pas été aisé du tout.
Tout à fait, c'était très difficile de les intégrer dans une exposition qui est essentiellement chronologique. Il a fallu répartir un peu les interventions. Mais cette arrivée des fusillés, pour l'exemple, n'est absolument pas anodine puisqu'elle a clairement poussé le musée à revoir sa muséographie et même un peu le sens de son exposition, comme l'explique David Guillet, directeur adjoint du musée de la Grande Guerre.
Pour le faire, il nous a fallu agir sur ce qu'est la présentation du conflit dans nos salles. La présentation du conflit dans nos salles était beaucoup, pas exclusivement, mais beaucoup une histoire opérationnelle du conflit, c'est-à-dire le récit des batailles, l'histoire institutionnelle de l'armée et de son organisation, et enfin l'histoire des matériels utilisés par les différents belligérants. Il nous a semblé indispensable pour commencer et pour rendre possible l'évocation des fusillés de parler du combat vu par les combattants, de leur dureté inattendue, bouleversante, inouïe au début du conflit, qui se traduit par des défaillances de la part d'un certain nombre des soldats et qui conduit les officiers à l'invitation de l'état-major à se montrer ferme, inflexible, c'est-à-dire à sanctionner les défaillances.
Ceux qui militent pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple sont satisfaits bien sûr de ce premier signe fort, mais la question n'est pas réglée pour autant.
Non, car si l'État se montre assez volontariste sur la question, la réhabilitation se fait encore au cas par cas. Patrick Kaczmarek du Mouvement pour la Paix.
Ce qu'on constate, quelles que soient les formulations, les projets, les initiatives, c'est que le gouvernement en est à la reconnaissance du cas par cas du fusillé. Et nous, il ne s'agit pas d'études cas par cas, ça a été une politique systématique pour l'exemple. C'est une conception de l'armée, de l'autorité et du pouvoir qui s'est affichée, affirmée dans ce comportement assassin. La réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple, s'oppose à la réhabilitation cas par cas qui est celle du pouvoir. C'est signe qu'il y a une prise de conscience, ça prouve qu'on a eu raison de persévérer pendant des années, surtout ces dernières années, sur cette question. Mais reste posée la réhabilitation collective. Donc, ce n'est pas négatif, mais ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Voilà, à découvrir ou à redécouvrir donc, puisqu'elle est assez nouvelle, cette exposition sur la Grande Guerre au musée de l'Armée à Paris, c'est aux Invalides.
Et tout de suite, on passe au bref.
Et l'on ouvre justement avec les taux de fréquentation record des lieux de mémoire de la Grande Guerre depuis le début de cette année de commémoration. Les sites de mémoire de la Meuse ont attiré plus d'un demi-million de visiteurs depuis janvier, y compris des nationalités qu'on n'avait jamais vues jusque-là, comme les Suédois, les Irlandais. Plus 20% de fréquentation dans la Somme et plus 46% en Haute-Somme, où sont concentrés les plus grands lieux de commémoration de la Première Guerre mondiale. Le public est à 85% étranger.
Le 17e prix Wepler Fondation La Poste a été attribué à Jean-Hubert Gaillot.
Pour son grand roman d'aventure, Le Soleil, paru aux éditions de l'Olivier, qui raconte la quête d'un manuscrit, lui-même intitulé Le Soleil. La mention spéciale du jury va à Sophie Divry pour la condition pavillonnaire aux éditions Noir sur Blanc Notabilia.
Le romancier japonais Haruki Murakami soutient les Gazaouis et les Hongkongais.
Waouh, quel bel accent, Laurent
Goumard. C'est la seule chose que je sais prononcer.
Eh bien, Haruki Murakami, comme on le dit, s'exprimait vendredi à Berlin, où ses œuvres ont été récompensées du prix Welt Literatur Preis du journal allemand Die Welt, au moment où débutaient justement les célébrations qui commémorent la chute du mur de 89. Et il a comparé les manifestants pro-démocratie de Hong Kong à la lutte qui a été celle qui a fait tomber le mur de Berlin il y a 25 ans.
Et la dernière pour votre route?
Ah, pour ma route, et puis bon, sera-t-elle vraiment si sympathique? C'est celle d'une autorité nouvelle, un peu chou, celle de la rencontre entre la politique et le cool, un ministre zen. Alors vous le savez peut-être, Laurent, le yoga, mais aussi les massages ayurvédiques, les Védas, ces chants sacrés issus des écritures indiennes, sont reconnus depuis 2008 comme patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. Voilà, ils trouvent essentiellement tous leurs racines en Inde. L'Inde qui, vous le savez peut-être, a un nouveau gouvernement et un nouveau premier ministre, Narendra Modi, qui est extrêmement ambitieux dans ses réformes pour le pays et qui pense que le yoga va l'aider puisqu'il est yoga passionné, végétarien, qu'il pratique tous les jours et qu'il dit tirer sa force de la méditation. Il a donc décidé de nommer hier un ministre du yoga. Et oui, c'est l'ancien ministre du tourisme, Shripad Pado Yesso Naik, lui aussi végétarien, lui aussi pratique tous les jours. Il sera en charge de la promotion des médecines et des pratiques traditionnelles, de l'ayurveda, du yoga, de l'unani, du sida et même de l'homéopathie. Il aura aussi pour charge, il faut le dire, ce sera peut-être un peu moins drôle, de gérer cet extraordinaire afflux de touristes yogis accidentaux qui viennent comme ça deux secondes se faire un grand plaisir à venir dans les ashrams. Qui sait ?
Est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos invités à ce que l'on vient d'entendre, Philippe Ken, Alessandro Chiaroni? Philippe Ken, il y a quelque chose, un dossier qui vous intéresse?
J'écoutais la traduction italienne et j'étais réjoui. Parce que, du coup, comme...
Ah, elle bosse à fond. C'est-à-dire qu'elle est en train de traduire absolument tout en direct, tout ce qui se passe dans l'émission, Alessandro Chiaroni. Alessandro Chiaroni, est-ce qu'il y a un dossier qui vous a intéressé plus qu'un autre, sur lequel vous voudriez revenir?
Cui vorrei sentire dire qualcosa
di quello che hanno appena detto, che sarebbe fantastico avere un ministro dello yoga in tutti i paesi.
Fantastique d'avoir un ministre du yoga dans tous les pays.
Il n'y en a pas en Italie?
In Italia non c'è.
Non, non ancora.
Non, pas encore.
Comment ça se passe pour vous en Italie? Est-ce que vous êtes aidé par le gouvernement? Comment ça se passe?
Aiutati,
quand on travaille là-bas?
Ecco, come artisti?
Come artisti.
Ma devo ammettere che ultimamente non
je
sono
dois dire que
in Italia e
ces derniers temps, je n'ai pas été beaucoup en Italie.
Et forse se non sono moltissimo in Italia, c'è anche un motivo.
Et si je ne suis pas très souvent en Italie, il y a peut-être une raison pour cela.
Depuis combien de temps vous avez quitté l'Italie pour pouvoir travailler en fait dans le spectacle vivant?
En réalité,
je suis bien résident en Italie. J'ai mon appartement en Italie. Toutes mes choses sont là-bas. Et j'ai de la chance parce que mes coproducteurs, c'est le théâtre de ma région. Mais j'ai beaucoup de chance. Je le répète.
Et soprattutto in termini di circuitazione degli spettacoli è molto difficile
pour, circuitare con questo pouvoir programmer avec ce genre de spectacle en Italie, c'est difficile.
Perché una volta che hai fatto Milano, Roma,
une
Bologna,
fois qu'on
Napoli,
est passé à Milan, Naples, Bologne,
città,
Rome, dans les grandes villes, ensuite dans les petites villes.
Molto, molto legati a un teatro di tradizione, un
teatro c'est le théâtre traditionnel officiel qui fonctionne.
Et le contemporain fa molta fatica.
Et le théâtre contemporain a beaucoup de mal.
Philippe Ken, vous qui êtes co-directeur du Théâtre des Amandiers à Nanterre, qui avait une carrière véritablement internationale, l'Italie, c'est une destination où vous avez pu être programmé?
Non, on sait que c'est un pays fragile, c'est rare de pouvoir y jouer, il y a des moyens économiques extrêmement... qui mettent en délicatesse les tournées. Enfin, non, je suis rarement invité.
Plus généralement, à l'international, vous êtes invité dans quelle direction en fait?
Il y a des pays qui ont défendu une image de la culture, notamment en Allemagne. On sait très bien que c'est pratiquement le seul pays en Europe qui a augmenté son budget. Et donc, c'est très souvent vers ces pays-là qu'on cherche des coproducteurs, comme on dit. Après, le monde est plus vaste dans ce qu'on appelle la diffusion. Et puis, mais voilà, globalement, on sait très bien que le sud de l'Europe est en difficulté. Portugal, Espagne, Italie, c'est des situations fragiles. Après, j'ai souvent été contacté par des gens passionnants. Il y a un vivier d'artistes et de producteurs vraiment inventifs. Donc, il faut continuer à y aller, mais il faut effectivement s'adapter aux situations et adapter les spectacles, je trouve, à cette économie européenne.
Bonsoir tout le monde. On voudrait bien s'entraîner avec des humains dans le cas où il y a une autre attaque des extraterrestres. On veut profiter de votre présence pour cet exercice. Merci.
Le rendez-vous.
Plateau enfant avec vous, Philippe Ken, scénographe, metteur en scène, un parcours qui commence au début des années 2000 et vous êtes le nouveau co-directeur du Théâtre des Amandiers à Nanterre. C'est là que vous y présentez votre nouvelle création, Next Day, dans le cadre du Festival d'automne. Sur scène, une dizaine d'enfants âgés de 7 à 11 ans, tous musiciens lâchés dans un décor avec un fond de scène, la photographie d'une barre d'immeuble. Sur le plateau, c'est un sol de terrain vague avec des blocs de mousse qui vont servir notamment à élever à un moment donné une barricade pour se protéger d'une attaque d'extraterrestres. La pièce commence, chaque enfant se présente et raconte ce qu'il préfère jouer dans la pièce. Alors certains préfèrent tourner des publicités, certains faire des crêpes, on les comprend, ou attaquer le public, là on les comprend aussi, habillés en super-héros. La pièce répond à une commande du centre d'art flamand Le Campo, qui propose à des artistes de travailler avec des enfants. Il y avait déjà eu Alain Platel qui avait travaillé avec eux. Vous avez sélectionné 13 enfants parmi les 70 qu'a cette compagnie. Quels exercices vous leur avez fait pour trouver ce qui vous convenait, Philippe Ken?
Oui, déjà, j'ai accepté la commande et il y a eu effectivement près de 80 enfants qui voulaient participer. C'était des petites annonces très simples dans des écoles flamandes, à Gand. Et en fait, j'avais tout de suite le titre et puis l'intuition.
Ah, vous aviez déjà le titre, Next Day.
Je démarre toujours du titre, c'est déjà pas mal.
Ah, mais c'est déjà énorme, ouais.
Voilà. Donc en général, je démarre du groupe, mais là, c'était effectivement suite à ce qu'on appellerait un atelier que j'ai choisi, ces 13 enfants. Je déteste l'idée de l'exclusion et ce qu'on appellerait les castings. Donc je me suis retrouvé avec 80 enfants et j'ai posé une question simple. Je cherchais plutôt des enfants qui n'avaient jamais fait de spectacle. Et dans ce genre de casting, justement, il y a beaucoup aussi d'enfants qui ont tourné des pubs pour les yaourts, qui ont fait des films, qui montraient tout leur CV, qui avaient fait des spectacles avec Yann Fabre ou avec Angelica Lidl. Donc j'ai eu...
Les grands noms du théâtre flamand et espagnol. Ouais.
Voilà, une expérience, on va dire, scénique. Et je voulais plutôt considérer que le fait de répéter un spectacle allait être un travail commun. Et j'ai gardé, disons que 13 enfants ont levé la main qui n'avaient jamais joué et j'ai gardé les 13. ce qui était un...
Ah, c'était hyper facile.
C'était facile. 14, pardon. Mais il y avait un problème familial pour le 14e, donc j'ai dû...
Vous l'avez évacué.
Son père ne voulait pas qu'il participe. Sa mère l'avait inscrit, mais bon, c'est une anecdote. Ça n'a plus d'incidence sur le spectacle. Mais c'est vrai que l'envie était aussi de... donner l'impression que répéter un spectacle... c'était apprendre des choses et ne pas leur donner le sentiment qu'on allait fabriquer un vrai spectacle. La notion de spectacle fini ou terminé qu'ils avaient trop en tête au début. Donc via justement cette expérience musicale, j'ai travaillé avec un assistant musical, Léo, et parce que les enfants, il y a un an, ne jouaient vraiment pas de la musique.
Ah, ils ont appris la musique pour ce spectacle ?
Oui.
Ah, c'est pas mal.
Il y avait une guitariste, mais qui était plutôt dans des... Quand on apprend la guitare acoustique à cet âge-là, c'est extrêmement laborieux, c'est des chants du Moyen-Âge. Donc on a acheté une guitare électrique assez vite, j'ai prévenu sa mère. Et ensuite, ceux qui jouaient peu... moi, j'ai posé la question simple. À cet âge-là, tous les enfants disent qu'ils font de la musique, même si c'est de la flûte à l'école. Ou la petite fille qui joue de la basse, par exemple, avait joué une note, c'est la basse de son père, qu'elle a décroché du mur du salon. Et voilà, maintenant, effectivement, elle joue Nirvana, mais il y a six mois, ce n'était pas exactement le cas. Et j'aime aussi cette idée-là, c'est-à-dire au théâtre, répéter, au théâtre ou dans la danse, c'est perdre son temps. Mais c'est étonnant d'être en répétition, c'est aussi perdre du temps entre des humains qui apprennent quelque chose, qui passent du temps ensemble, qui forment une communauté, naturellement par le travail. Et puis ensuite, évidemment, vient le moment du spectacle. Mais je trouvais ça aussi émouvant de les voir apprendre et arriver à former un orchestre.
Vous comprenez cela, Alessandro Chiaroni, j'imagine? Ça fait écho même à votre propre travail?
Si, si, certo. Mi dispiace molto non aver visto il tuo spettacolo.
Vraiment, je suis désolée de ne pas avoir vu ton spectacle. On m'en a dit beaucoup de bien. Et on m'a surtout parlé de cet aspect dont tu viens de parler maintenant.
C'est le problème de Paris, il y a trop de spectacles en même temps. Moi aussi, je suis très frustrée.
Rassurez-vous, on va en supprimer pas mal.
Non, ne supprimeremo tanti, basta qualche lezione.
Sì, 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 comunque anche, anche nel mio lavoro
Oui, et même dans mon travail.
L'aspetto della creazione del gruppo.
L'aspect création dans un groupe est important, fondamental. Le spettacle que nous venons de présenter au Théâtre Montfort, c'est l'histoire d'une création dans un groupe.
L'accettazione di alcuni compromessi.
Accepter des compromis.
Voler veramente andare al fondo in una
regola. Le fait de vouloir aller jusqu'au bout d'une règle.
Et dell'essere tutti d'accordo di volerla portare
veramente. De vouloir être tous ensemble d'accord pour l'amener à bien.
Next Day, c'est-à-dire que vous aviez donc le titre du spectacle auparavant, c'est-à-dire pour quelle raison ce titre-là? Qu'est-ce qu'il vous permettait?
Il y avait plusieurs intuitions, il y avait toute la part de projection. Enfin, quand on voit un enfant sur scène, on est immédiatement en empathie, on s'imagine ce qu'il va vivre, ce qu'il va avoir à vivre. Enfin, c'est bizarre parce que quand on se regarde entre adultes, on ne se demande pas ce qu'on va avoir à vivre, c'est trop tard. Donc, avec les enfants, il y avait une charge...
Juste envie de chialer après cette phrase.
Oui, c'est vrai, moi aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé réjouissant de travailler avec des enfants aussi très petits. C'est-à-dire, avant les problèmes, je leur avais dit, c'est-à-dire avant 12 ans, avant que l'adolescence s'empare de... tombe sur eux. Dans le titre, c'était évidemment contenu le futur et puis une sorte de sonorité comme un groupe déjà de musique, parce que j'avais cette envie de composer un groupe. D'ailleurs, ils se sont tellement bien entendus qu'ils veulent plus se quitter. Donc peut-être que Next Day est un futur grand groupe de rock des années futures.
Lucille Comeau.
Les enfants parlent donc le flamand, parfois seulement quelques mots en anglais et en français. Vous pratiquez vraiment un théâtre qui privilégie le geste sur la parole. Et ici, vous donnez même une dimension technique, plastique pardon, à cette parole, puisque vous la projetez en fond de scène au-dessus des immeubles. Et je voulais savoir, en gros, qu'est-ce que vous permet cette mise à distance de la parole?
Oui, c'est assez juste. Je crois que j'ai toujours mis en scène des corps dans des espaces, dans des paysages. C'est plus que jamais la question aussi de ces enfants qui s'inventent un monde, qui sont, comme disait Laurent, dans une sorte de terrain vague avec cette grande photographie. Et j'ai aussi rêvé de souvenirs, grâce à des souvenirs de films italiens ou de Truffaut. Enfin, cette souvenir, moi je suis né en 70, j'avais le sentiment... par les films qu'on voyait à ce moment-là, ou par même la télé, on a entendu tout à l'heure L'île aux enfants, dans le générique, je crois, d'introduction.
Oui, tout à fait.
C'était il me semble, une grande époque de liberté esthétique. Hein, on parlait beaucoup de l'enfance dans les films, mais pas de manière naïve. Et notamment, je pense à L'île aux enfants, parce que finalement, il n'y a pas que Casimir. C'était une émission découpée en un certain nombre de films d'animation venus de Tchécoslovaquie, de Russie. Il y avait Chapi Chapeau, des espèces de poupées en chiffon animées de cubes. Quand on voit ce que fait Bob Wilson après, c'était déjà très initiatique. Pinky Pooh, un espèce de farfelu avec des moustaches, hein, tous les noms me viennent, tu vois, c'est dingue. Soudainement, j'ai... Non, mais il n'y a pas...
Dépressive, enfin, c'était formidable.
Non, on osait aussi couper une émission pour enfants de plein de formes visuelles et esthétiques et narratives. Donc, c'est vrai que maintenant, on fabrique un petit peu des produits mâchés. Pourquoi on parlait de ça, déjà ?
Parler de ça pour cette dimension plastique du texte sur
c'est vrai que
sans que les enfants aient besoin de parler en fait.
Ouais, j'ai souvent utilisé des processus de
mise à distance de la parole
exactement, et puis de sentiments aussi, de se laisser conduire dans des tableaux vivants. Et puis effectivement, comme vous le dites, les enfants parlent flamand, c'est aussi le français qui disparaît de la Flandre. Donc j'ai communiqué avec un assistant qui a été formidable. Et le surtitre amène comme un gros plan. On est comme dans les conversations d'enfants qu'on peut puiser. Et je trouve que ça décalait aussi la parole brute. Et voilà.
Comme dans toute émission, depuis le début de l'année, on a demandé à notre invité de nous apporter un son qui l'a marqué. Voici ce que vous avez choisi, Philippe Ken. Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Philippe Ken ?
On m'a demandé de choisir, alors j'ai essayé de me souvenir de choses marquantes. Non, ça a aussi rapport à l'enfance. Je me suis retrouvé par hasard un jour à garder une petite fille quand j'étais babysitter à 14 ans, et c'était la petite fille de Nina Hagen. Et donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette petite fille à le crâne, elle avait un petit Iroquois, la petite, elle avait 2 ans et demi.
Elle s'appelait Cosma Shiva, c'est
elle ? Oui, exactement, Cosma. Et voilà, comme par hasard, on se met à découvrir un certain style de musique parce qu'on fait du babysitting, puisque du coup, sa maman m'a gentiment remercié en m'invitant à un concert. Et c'était donc Nina Hagen, et j'ai vu le premier concert de ma vie. Voilà, et c'était réjouissant. Et après, au-delà de ça, ça faisait sens parce que j'ai vu un Allemand hier qui m'a rappelé qu'on fêtait l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, et puis j'avais complètement, évidemment, pas mis en relation notre mur de briques roses que les enfants explosent. Donc voilà, je me suis dit, c'est le morceau du jour à vous proposer.
Vous avez une façon très personnelle de travailler avec vos interprètes. Je vous cite, dans un précédent entretien, vous disiez « Les comédiens obéissent à des consignes chorégraphiques de déplacement, respectent des rythmes de parole et ne jouent jamais en pensant à leur personnage. C'est souvent la combinaison des corps, d'un milieu naturel et d'un rythme de l'action qui produit la compassion, le rire, la tristesse ou la mélancolie. Je crois que le côté paisible, placide des protagonistes de mes pièces donne de la place au spectateur pour mieux se mettre à l'intérieur des choses. » Le côté placide avec des enfants, je pense qu'on va repasser, Philippe Ken. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de travailler, même pour la suite ?
C'est vrai que j'expérimente dans cette pièce la première interaction avec le public, notamment cette bataille. Non, je pense qu'en même temps, c'est assez similaire de la façon dont je travaille avec des acteurs, donc des gens, des personnes, était assez proche. Je m'empare de beaucoup du vocabulaire gestuel et verbal des gens. Passer du temps en répétition nourrit le processus d'écriture. Et j'ai aussi eu ce plaisir avec eux, c'est-à-dire déjà de garder une distribution unique, parce que souvent dans les pièces avec enfants, on fait 2 équipes
pour
les fatigues, pour les tournées, donc pour rentabiliser la tournée, j'allais dire, un peu vulgairement. Et je n'avais pas du tout ce désir-là. Je voulais vraiment que ce soit eux qui me donnent des pistes. Et ils ont beaucoup apporté. Et voilà,
qu'est-ce qu'ils ont apporté, par exemple ? C'est eux qui ont apporté l'idée des extraterrestres ? C'est eux qui ont apporté l'idée de la barricade, de jeter quelque chose contre le public ?
Oui, j'ai passé beaucoup de temps à observer leur monde, d'extraire de ça des notes. C'est un peu comme un... c'est les premiers jours de répétition sont souvent des ateliers, un peu comme de la recherche, un peu en chimie. On mélange des produits, on observe comment les corps, les enfants se comportent, les récits qui émanaient aussi évidemment de leur imaginaire. Et ensuite, vraiment comme une partition chorégraphique, répartir leur personnalité dans l'espace, dans cette fable qui est née. Beaucoup d'eux, c'est vrai que c'est curieux, cette notion de super-héros. C'est un âge fougueux et on a aussi beaucoup envie de résoudre des grandes questions et des petites aussi. Il y a des grands moments de solitude ou de mélancolie, il y a la fatigue. Beaucoup de blocs d'énergie agencés. Enfin, je pense que c'est une pièce... C'est une pièce qui parle, c'est une pièce avec des sons, et puis c'est aussi une pièce de déplacement et de questions et de préoccupations du futur, mais dans un climat.
Lucille.
Depuis janvier dernier, vous êtes donc le nouveau directeur du théâtre des Amandiers à Nanterre. Or, votre précédent spectacle, Swamp Club en 2013, était une fable sur la destruction d'un centre culturel qui devenait un marécage, comme son nom l'indique. Une vision plutôt pessimiste de l'institution culturelle. Est-ce que ça a changé depuis ?
Oui, c'est très juste. Bah, je démarre souvent le nouveau spectacle par la fin du précédent. Il se trouve que Swamp Club parlait d'un lieu de résidence qui se transformait en lieu de résistance. Et j'ai candidaté à Nanterre comme si c'était la suite logique de ce spectacle. Bon, il se trouve que j'ai été retenu, mais évidemment que c'est une nouvelle page de l'histoire du travail qui s'inscrit. Et puis aussi un plaisir que ça va être, je l'espère, évidemment de programmer, d'inviter des artistes à s'emparer de ce bâtiment, de cette fabrique, parce que c'est un grand théâtre avec des plateaux de répétition, des espaces de travail. Un espace aussi, bien évidemment, qu'il faut considérer aujourd'hui avec des productions qui ont complètement... qui sont plus du tout les mêmes, hein, ce contexte des années 80, parce qu'il y a cette grande histoire
avec Patrice Chéreau,
et cette mythologie avec Chéreau dans les années 80, qui est évidemment à remettre dans le contexte actuel. On n'est pas encore en Italie, mais je pense qu'il faut faire attention. Et comment aujourd'hui animer ce grand théâtre et aussi permettre, j'allais dire, d'héberger ou d'abriter des démarches artistiques différentes et de mélanger les arts, puisque c'est devenu beaucoup plus simple et évident que les pratiques se mélangent, et heureusement.
Le rendez-vous. Extérieur. Extérieur.
Philippe Ken et Alessandro Chiaroni, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Alors ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, c'est Pascal Bordet, costumière du théâtre Manu Farine.
Une costumière d'un genre artisan, militant et aquarelliste, qui signe deux livres coup sur coup, bestioles de théâtre avec la chanteuse Juliette, chez HT Éditions. Et habillé l'acteur avec Michel Bouquet chez Actes Sud. Je l'ai rencontrée chez elle à Paris, dans son appartement tout blanc. Elle et ses deux chats, qu'elle laisse, dit-elle, avec France Culture quand ils sont aimables et Radio Courtoisie quand ils sont punis.
Espérons que ce soir, ils sont aimables. Questionnaire, costume, Pascal Bordet, Manu Farine.
Le vêtement que vous associez à vos parents ?
Les vêtements du mariage. La robe avait été faite par ma grand-mère qui était couturière. Ivoire, damassé... La coupe 50, longue, le voile, tout, la perfection absolue. Et mon père était militaire, donc l'uniforme.
Premier choc de spectatrice.
Lorenz Accio, j'avais 17 ans, j'étais à l'école. J'ai passé mon bac avec, j'ai eu 19. Première fois que j'allais au théâtre, les Tréteaux de France, l'envahissement total, 19. 19 sur 20.
Premier costume réalisé ou choisi ?
Marivaux, j'avais tout cousu à la main la nuit. Comment j'ai fait ? J'ai tout cousu à la main, tout coupé. J'avais fait une déclinaison de camaïeux, de blanc, de gris et de noir. Et plus on fonçait, plus on allait dans la méchanceté. Plus on s'éclaircissait, on allait dans la lumière. J'avais 18 ans.
Le spectacle qui a pu vous donner envie de faire ce métier ?
C'est moi qui me suis donné envie de faire ce métier. Je l'ai cherché, je l'ai voulu, je l'avais trouvé à 6 ans, j'avais trouvé avant d'aller au spectacle. C'est moi qui l'ai trouvé toute seule.
Le spectacle qui, pour vous, serait une leçon en matière de costume ?
D'abord, Le Roi se meurt, parce que c'est pérenne. Ça fait 14 ans que mes costumes sont en scène avec Michel Bouquet. Cousus sur le corps, ils ont tous les codes. Il y a le blanc de la mariée, il y a le bleu du soldat, il y a le rouge de la vie, il y a la couverture de la mort, il y a le violet... De l'autorité, tous les codes de la vie, feu rouge, feu vert, orange.
Le siècle que vous aimez habiller ?
Fin 19e, début 20e, je suis chez moi, parce que je l'ai vécu. J'ai dû faire la guerre de 14, je pense. Le vêtement était appuyé sur le corps, on n'en avait pas beaucoup. Donc tout était signifiant, les vêtements de jour, les vêtements de nuit, les vêtements de fête, les vêtements de deuil. Tout était inscrit dans une histoire, dans une logique. Donc on ne portait pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, il y a une écriture, il y a un langage.
première erreur de costumière ?
C'était pendant le Bourgeois Gentilhomme au Théâtre de Paris avec Jean-Marie Bigard. Et je me souviens qu'un jour, je suis arrivée, le décor était monté. Quand j'ai vu ce décor, qui était trop coloré, mes 40 costumes du ballet dansé de la Turquerie, je les ai refaits dans la nuit. Parce que le décor m'imposait une couleur qui n'allait pas du tout avec mes costumes. Le décorateur ne m'avait pas consulté.
Depuis vos débuts, ce qui a fondamentalement changé dans la pratique de votre métier ?
Eh bien, c'est un petit peu grave. D'abord parce qu'on vire mon poste. Il y a de moins en moins de créateurs costumes. Tout le monde s'invente costumier comme photographe. Tout va très vite. Les spectacles ne durent pas. Donc, c'est pas le même temps de fabrication. Moi qui fais du pur et dur artisan, donc j'ai dû revoir ma copie. Plus de shopping et moins de fabrication.
Une définition possible de votre métier ?
S'oublier et qu'on ne vous oublie pas.
S'il ne devait rester qu'un seul vêtement dans votre garde-robe ?
Mais il n'y en a qu'un. C'est celui que je porte. C'est mon blanc de travail. Mon tablier. Mon tablier. Un tablier. Je mets encore un tablier pour travailler. Vous le croyez, ça ?
Pascal Bordet, merci.
Philippe Ken, une réaction à ce que l'on vient d'entendre ?
J'aime beaucoup l'idée du shopping en même temps, mais c'est vrai qu'on est dans un autre contexte. Hein. Il y a de moins en moins de création de costumes. Ouais. Je ne dis pas ça pour mes enfants flamands, parce que j'ai aussi été étonné que les Belges ne changent pas de t-shirt. Les enfants sont été très libres et on n'a pas fixé les costumes. Justement, ils viennent chaque soir avec le costume qu'ils souhaitent. Ils m'ont fait une petite surprise à Paris, parce qu'il y avait Randy MC et Bob l'Éponge. Ils m'ont dit, je pense qu'à Paris, les gens connaissent bien des personnages et des groupes, donc on va mettre des beaux t-shirts. Mais non, c'est intéressant ce qu'elle a dit. Elle a dit plein de choses.
Le spectacle qui vous a donné envie de faire ce métier, je fais un peu ma Manu Farine. S'il y en a un, ou peut-être pas, comme Pascal Bordet.
Un spectacle, je crois pas, plusieurs, oui. Non. Je sais pas, ça doit être des spectacles dont on se souvient plus, hein, qu'on voit à 2-3 ans dans des maternelles, mais qui sont quand même réjouissants, sans doute.
Alessandro Chiaroni, est-ce qu'il y a, je sais pas, un auteur, un metteur en scène, une image de théâtre qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Non, parce que en réalité,
quand j'étais adolescent,
j'aurais voulu être musicien rock, c'était mon rêve. Je savais quand même que je n'étais pas assez bon. Alors j'ai commencé avec le théâtre. Et je me suis dit, tout le monde sait parler, il faut juste parler. Et finalement, je suis allé travailler dans une compagnie qui faisait de la recherche, qui était très radicale. Et j'ai passé 10 ans sur scène. On ne voyageait pas, on faisait de la production toute l'année. Pendant ces années-là, je n'allais jamais au théâtre. On travaillait tout le temps, mais j'en ai fait beaucoup de théâtre. Et quand j'ai quitté la compagnie, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à aller au théâtre, à regarder les spectacles. Mais les informations, je les ai eues toutes au sein de cette compagnie. Je n'ai pas un idole. Ce sont les artistes plasticiens visuels qui m'ont influencé. J'ai fait des études d'histoire de l'art contemporain à l'université.
On va parler de tout ça.
Le rendez-vous.
Plateau hyperactif avec vous, Alessandro Chiaroni, chorégraphe et metteur en scène italien. Pas moins de 3 spectacles sont programmés pour cette édition du Festival d'automne à Paris. On a ouvert ce plateau, on l'ouvre sur cette évocation du Schuhplattler, une danse folklorique du Tyrol et de la Haute-Bavière version traditionnelle que vous mettez en jeu dans la pièce Folks. Will You Still Love Me Tomorrow, qui est programmé au Théâtre Aragon à Tremblay, en France actuellement. C'est une danse qui remonterait à 1500 après Jésus-Christ. Les danseurs se frappent, on l'entend, sur les jambes, les genoux, les pieds, et frappent des mains et des pieds. Comment vous avez découvert cette danse-là, dans quel cadre ?
Molto so che sembra un mito voler dire che si scoprono le cose per caso, ma l'ho scoperta veramente di per caso.
Un peu bizarre de dire que je l'ai découverte par hasard. Mais c'est vrai, je l'ai vraiment découverte par hasard.
La danza originale, perché io non vengo dalla regione.
Je ne viens pas de cette région du Tirol, donc ce n'est pas ma tradition.
C'est questo cantante americano che si
chiama Rufus Wainwright, qui s'appelle Rufus Wainwright,
e che nel diversi anni fa,
il y a quelques années,
nella quarta di copertina del suo album era ritratto
dans
da
une image de son album, il avait un portrait de Sam Taylor Wood et il avait un habit du Tirol.
E quindi era un'immagine molto,
et c'était une image qui,
molto potente, molto
qui m'a frappé, très contemporaine. Et je me suis dit, il y a une vibration contemporaine dans cette image.
E ho iniziato a pensare, ho continuato a pensarci per tanti giorni.
Et j'y ai pensé pendant des jours et des jours.
E poi ho incontrato un coproduttore.
Et ensuite, j'ai rencontré un coproducteur
du
centre de la scène contemporaine de Bassano del Grappa, qui est un passionné de ces danses.
Siamo andati in Tirolo a conoscere
et nous sommes allés au Tirol et nous avons rencontré un véritable groupe de danse populaire.
Philippe Kem, vous connaissez l'art chorégraphique d'Alessandro Chiaroni?
Non, je vais aller la semaine prochaine. Je lui disais juste qu'il y a une anecdote parce qu'on a joué à Tallinn à la fin du mois d'août Les Fées de Serge, un spectacle de ma compagnie, et il y avait une quille de Alessandro qu'ils avaient oubliée la veille parce qu'il a
un spectacle de jonglage,
oui, voilà. Mais
donc vous avez récupéré cette quille.
C'était mon lien.
Manu Farine.
Alors sur le plateau, 6 danseurs, dont vous, 5 hommes, une femme, sans musique, en tout cas sans musique tyrolienne, en Bermuda, qui tous répètent, épuisent une séquence en particulier, pendant 2h15, en tout cas nous, c'était le cas le soir où on y était. Les danseurs alternent, répètent les figures en ronde, en frontale, se désunissent, se réunissent, et puis très vite, un danseur vient annoncer comme une forme de pacte, c'est-à-dire que les danseurs vont danser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un danseur sur le plateau et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un spectateur dans la salle. Donc du coup, tout le monde, spectateur et danseur, est libre de partir ou de rester. En tout cas, ça c'est ce que dit le pacte, qui n'a pas été décidé tout de suite, qui s'est mis en place au moment où il a fallu décider de la durée du spectacle. Je crois que c'était même une semaine avant la première. Qu'est-ce que ce pacte-là permettait de résoudre, qu'est-ce qu'il mettait en jeu pour vous?
Quand nous avons fait la chorégraphie,
quand nous avons chorégraphié une semaine avant, il y avait 50 minutes avec des variations chorégraphiques, une variation assez jolie. Mais je me suis dit non, ce n'est pas suffisant. Le spectacle veut décrire où et comment cette danse a commencé. Et je parle de la tradition au fil du temps. Et comment cette danse, qu'aujourd'hui est toujours très vivante, ce n'est pas quelque chose qui est dansé juste dans les hôtels pour touristes, va se terminer un jour, elle n'existera plus. Nous ne savons pas comment elle a commencé et nous ne savons pas si et quand elle se terminera. Et d'un point de vue philosophique, la seule solution pour répondre à cette question, c'est que cette danse, cette tradition, va se terminer quand il n'y aura plus personne à la regarder ou à la pratiquer.
Et le premier expérimento che abbiamo fatto era
la première expérience que nous avons conduite était unilatérale. Donc le public avait le pouvoir absolu. Et nous avons décidé qu'on allait rester danser jusqu'au moment où il y aurait un seul spectateur dans le public.
Qui resterait,
oui.
Ma questo spostava troppo l'accento su un aspetto quasi sadomasochistico.
Mais c'était presque un peu sadomaso.
Della relazione tra performer e pubblico.
Dans cette relation entre performer et public.
Secondo me non c'entrava niente con la
question. Et à mon avis, ça n'avait rien à voir avec la question du folk.
E quindi un giorno abbiamo fatto una apertura al pubblico di una prova e una signora mi ha detto.
Il y a eu une dame qui.
Una spettatrice mi ha detto perché non liberi anche i danzatori.
Spettatrice qui nous a dit pourquoi tu ne libères pas également les performeurs, les danseurs.
E quindi questo è il risultato che abbiamo trovato.
C'est le résultat que nous avons choisi 7 jours avant la première.
E quando l'abbiamo trovato drammaturgicamente per me era chiusa la performance.
Voilà, une fois que nous l'avons trouvé, on avait achevé la dramaturgie de cette performance.
Le jour où on y est allé avec Manu, donc ça a duré 2h15. Le jour où d'autres membres de l'équipe du rendez-vous sont allés, ça a duré 1h30. Qu'est-ce qui motive, au-delà de la fatigue, le départ des danseurs du plateau?
Je
suis le plus vieux et je n'ai pas une très forte préparation physique. Mais les jeunes sont très préparés et pendant 6 mois, nous avons dansé pendant des heures tous les jours. Donc ce n'est pas une question physique.
È una questione di essere veramente presenti e non pensare a cosa
di comporre. Il faut être vraiment présent et il ne faut pas penser à ce qu'on va donner comme mouvement chorégraphique.
La regola è che quando inizi a pensare a come devi comporre, che pattern
quand
usare,
on commence à penser
creare,
quelle figure on va créer, quel modèle on doit créer d'un point de vue chorégraphique, ça veut dire qu'on n'est plus là en ce moment-là. Il faut être honnête avec le groupe, il faut quitter le spectacle.
Ovviamente, la stanchezza fisica
évidemment, la fatigue physique a une influence. Plus on est fatigué, plus qu'on commence à penser à comment on va pouvoir continuer.
Philippe Kem, vous comprenez justement ce manifeste?
Ça me donne encore plus envie d'aller voir le spectacle. Non, je pense visiblement il y a beaucoup de façons de chercher avec un groupe. Ça me plaît beaucoup ce qu'il disait sur le processus. Comment on ose diriger des gens, j'allais dire, hein, parce que les embarquer dans ce genre de forme, embarquer des danseurs ou des acteurs. Non.
Sì, è stato c'è stato un momento in cui bisognava prendere una decisione.
Il y a eu un moment où il fallait prendre une décision.
Et non tutti erano contenti di questa decisione.
Et tout le monde n'était pas content de la décision prise.
Quindi ho dovuto avere degli incontri singoli con questi danzatori.
Donc j'ai rencontré chacun d'entre eux de manière séparée.
Perché il sottotitolo dello spettacolo, che è Will You Still Love Me Tomorrow, parla proprio
del sous-titre du spectacle Will You Still Love Me Tomorrow.
L'importanza di provare
parle de l'importance
gli uni per gli altri.
De ressentir ce sentiment les uns envers les autres.
E lì in quel momento c'è stata una domanda. Et si la réponse sarebbe stata no, probablement.
Et donc j'ai posé la question, et si la réponse avait été non, probablement.
Non so cosa sarebbe successo. La domanda era.
Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. La question était.
Trovare il piacere.
Es-tu disposé à trouver le plaisir
et à faire in modo
dans cette danse et faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible?
En parlant justement bien de ce son dont vous parlez, on va l'écouter. C'est une chanson. Le sous-titre de ce spectacle, c'est une chanson. Tonight, you're mine. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. But will you love me? En fait, tous les sous-titres de vos spectacles sont des chansons. Qu'est-ce que ce titre raconte de la pièce, Alessandro Sciaroni?
Ma come diceva Philippe,
è
interessante perché anche a me i titoli o non arrivano o arrivano tipo un anno prima.
Parce que soit j'ai l'idée du titre un an à l'avance, ou bien j'ai du mal à les trouver.
E questo titolo è arrivato veramente poco dopo che avevo visto questa immagine di Rufus Wainwright.
Je l'ai eu dès que j'ai vu l'image de Rufus. De son album.
È molto interessante perché oggi stavo parlando con un coreografo francese.
Aujourd'hui, je parlais à un chorégraphe français qui disait que pendant tout le spectacle, on ne pense pas au titre avec cette question, mais à la fin, quand on y repense, tout a un sens en fait.
Noi abbiamo vissuto assieme per 6 mesi, tutti i giorni, abbiamo mangiato assieme.
Avec l'équipe, nous avons travaillé ensemble pendant 6 mois, nous avons dormi ensemble dans les mêmes lieux.
Et
ce groupe de danseurs est un groupe magnifique pour moi.
Et
je n'avais plus envie presque d'être leur chorégraphe.
Perché loro erano talmente belli
parce qu'ils étaient tellement beaux que je voulais être comme eux.
Filken, oui.
Mais donc finalement, c'est presque ton désir d'avoir un groupe de rock. C'est quasiment arrivé.
Il fallait passer par le théâtre et la danse folklorique. Manu Farine.
Oui, alors on vous a demandé, hein, comme à Philippe Ken, d'apporter un son, Alessandro Sciaroni, et vous avez choisi celui-ci. When I hear beautiful music, it's always from another time.
Old friends I never visit, will I remember what they're like?
Identification de ce son, Alessandro Chiaroni, et pourquoi l'avoir choisi?
C'est très personnel et c'est un peu embarrassant d'en parler. Il y a des enfants qui ont des amis imaginaires.
Et
j'ai eu un copain imaginaire à l'âge de 30 ans, par contre. C'était le chanteur de ce groupe
qui s'appelle Conor Oberst.
C'est le leader de beaucoup de groupes. Ce groupe s'appelle Bright Eyes.
Et
à cette époque-là, je voyageais beaucoup en voiture pendant 2 heures tous les jours pour enseigner le théâtre à l'école de théâtre de Ancona. Et je chantais tout le temps cette chanson dans ma voiture et j'imaginais qu'il puisse être à côté de moi dans la voiture. Et quand j'allais travailler, il m'attendait dans la voiture. Et quand je revenais et j'avais terminé, il était là.
Et on a
utilisé cette chanson très très souvent dans le spectacle Folks, vraiment très souvent. Et le texte parle bien de ce qui s'est passé entre nous. Il y a un moment où il parle à une fille et il lui dit « Essaye de ne pas être aussi belle, parce que sinon tu vas trop me manquer. » Pour composer ce spectacle, nous avons écrit une sorte de manifeste. Au lieu de créer une structure chorégraphique fixe.
Et une règle du manifeste dit que non, tu devais affectionner.
L'une des règles, c'est de ne pas s'attacher à tout ce qui arrive de beau chaque soir dans le spectacle.
Et qui non ti ha consentito ripeterle.
Parce que ces choses-là, on ne peut plus les répéter.
Così come le canzoni che scegliamo ogni sera vengono rimosse dalla playlist.
Et effectivement, les chansons de tous les chaque soirée, on ne peut plus les reprendre, on les enlève de la playlist. Pour essayer d'être ici et maintenant quand nous dansons.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer tout de suite.
Session
ici
pop.
Ici et maintenant, session pop.
Avec le groupe Moodoï John Group, né de la réunion de plusieurs musiciens sous la houlette du guitariste Pablo Padovani, ici présent. Leur premier album, Le Monde Mou, a paru à la fin de l'été, un album qui dessine un univers étrange, un peu magique et coloré. Et ils interprètent ce soir dans le studio 108 un titre qui leur va bien, La Lune. Pablo et Maud sont à la guitare au chant, et Gilles est au saz. Moodoï, c'est à vous.
Thank you.
Loïc, dans direct dans le studio 108 de la Maison Ronde. C'était La Lune. Ils seront en concert le 12 novembre au Casino de Paris, le 21 à Belfort et le 6 décembre à Cognac. Et l'album Le Monde Mou, apparu au label Entreprise.
Quand on se regarde entre adultes, on se demande pas ce qu'on va avoir à vivre, c'est trop tard.
Vous le croyez ça ?
Philippe Ken, merci à nos invités. Philippe Ken, Next Day, c'est du 5 au 7 décembre et du 12 au 14 décembre au Théâtre des Amandiers à Nanterre, dans le cadre du Festival d'automne. Je signale que vous serez aussi à la Ménagerie de Verre à Paris avec la démangeaison des ailes du 25 au 29 novembre pour le festival Les Inaccoutumés. Alessandro Chiaroni, toutes les dates des trois spectacles dans le cadre du Festival d'automne sont sur le site de l'émission. À vouloir aller trop vite, bien sûr, je bafouille, Meudoïde. Vous serez en scène le 12 novembre au Casino de Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Le tireur fou de Pont-Saint-Maxence.
Demain, série noire avec Guillaume Canet, à ses côtés Sylvie Granotier. La désannonce d'Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote, journal de la culture Zoé Sfez, à la prise de son Clément Daté et Alex Dang, à l'interprétation Rosella Dignola et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h55, vous écoutez France Culture, c'est bien ?